L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer la méditation que nous avons entamée la dernière fois avec la question des vocations. Question que nous allons aborder pendant encore deux autres émissions après celle-ci. Maud, nous avons médité la semaine dernière sur justement la complémentarité, l'articulation, la richesse des deux vocations, mariage et célibat, sur lequel justement Jean-Paul II a beaucoup insisté, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de hiérarchie mais une profonde complémentarité.
Voilà, et là cette semaine nous allons parler surtout de l'aspect nuptial qui est tellement fort dans l'une et l'autre des vocations.
Voilà, c'est-à-dire que finalement toute vocation est l'expérience des noces avec le Christ, avec l'Église, est une expérience nuptiale. Et pour cela nous avons un texte, Maud, dans le chapitre 22 de Matthieu.
Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, « Voilà, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent, qui a son champ, qui a son commerce. Et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives.
Voilà, voilà, c'était une fantastique bonne nouvelle à laquelle nous sommes invités, on ne le dit jamais assez, c'est que l'évangile du Christ, l'appel du Christ, est une fantastique bonne nouvelle qui dilate nos vies, et laquelle, c'est une fête, une noce, à laquelle tous, bons et mauvais, sont invités. Et comme le dit notre archevêque, toute vocation est une vocation nuptiale, est une invitation aux noces. Et Jean-Paul II, Maud, va encore plus loin, si on peut dire,
oui,
en commentant cet évangile.
Dans une lettre qu'il adresse aux couples et aux familles. Lorsque Jésus parla d'une invitation aux noces et de la présence de l'époux parmi les invités, il signifiait par là l'accomplissement en sa personne du Dieu époux, qui est présent dans tout l'Ancien Testament, afin de révéler le mystère de Dieu comme mystère de l'amour.
Voilà, c'est une expérience nuptiale, c'est une expérience amoureuse à laquelle nous sommes invités. Et là, il ne faut pas simplement théoriser, il faut se rendre compte que pour les uns et les autres, la grande majorité d'entre nous qui sommes mariés, ou amoureux ou fiancés, effectivement, à un moment, on n'était pas amoureux, donc, et puis à un moment, l'expérience de l'amour, mais a transformé nos vies, a dilaté nos cœurs, a apporté un éclairage, une richesse extraordinaire. Mais c'est ce même type d'expérience, on dit que l'expérience spirituelle, c'est pire. C'est-à-dire que c'est à cette expérience nuptiale à laquelle nous sommes invités pour suivre le Christ. Et c'est pour cela que, le Christ dit, en parlant de lui, avec ses disciples, l'époux est avec eux, l'époux est avec les disciples, l'époux est avec ceux qui connaissent le Christ et qui le suivent.
Assure d'ailleurs qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit ça le soir de la scène. Autrement dit, cette grâce d'être avec l'époux n'était pas réservée au temps où Jésus était physiquement, si je puis dire, en chair et en os sur cette terre. Il est pour tous et aujourd'hui L'époux est avec nous. Et donc, si l'époux est avec nous, nous devons être dans la jubilation de ces noces divines, c'est-à-dire où le Christ, en étant avec, à nos côtés, avec nous, épouse notre humanité et donne sa vie pour notre humanité. Il est là, à nos côtés, pour se mettre à notre service et être l'époux qui nous aime et qui nous soutient et qui nous permet de rentrer dans cette joie des noces.
Et ça, c'est un bonheur immense qui ne déçoit pas et qui dilate une vie. Et vraiment, c'est essentiel que justement dans cette pastorale des vocations, les différentes vocations suscitent, justement, expriment ce bonheur que le monde ne peut pas donner, mais que seul le Christ peut donner. Pour avoir accompagné nombre de jeunes et aussi nos enfants, mais depuis des années dans divers cadres, cette question de que ça soit des couples ou que ça soit des consacrés, des prêtres, l'expression de leur bonheur, de leur désir de vivre, de leur joie de vivre est fondamentale pour justement éveiller chez les jeunes ce désir de se consacrer à Dieu. C'est comme ça, par exemple, que Mère Teresa, quand elle voyait ses sœurs qui faisaient un peu la tête, qui soignaient les malades, elle disait, écoute, tu retournes à la chapelle, d'abord tu vas essayer de puiser dans la prière, dans ta foi, dans ta vocation, toute la joie immense que tu as d'avoir donné ta vie à Jésus. On n'est pas des travailleurs sociaux, on est de ceux qui annonçons et témoignons d'un amour immense, et c'est un bonheur essentiel. Voilà. Et nous avons, notre vocation, c'est d'abord d'être témoin de ce bonheur et d'expérimenter ces noces spirituelles et divines.
Voilà, donc que ce soit pour les consacrés dans le célibat ou pour les consacrés dans le mariage, l'un et l'autre appel sont là pour nous faire rentrer dans ce plus grand bonheur de vivre avec l'époux qui est le Christ. Donc nous sommes invités à cette rencontre nuptiale. Et comme disait Jean-Paul II, la nature du mariage et du célibat est conjugale. L'un et l'autre amour tendent à exprimer cette signification conjugale du corps qui est inscrite dans la structure personnelle de l'homme et de la femme depuis l'origine.
Voilà, c'est depuis l'origine, nous avons à vivre cette exultation nuptiale. Nous sommes faits pour cette nuptialité et c'est la promesse que Jésus est l'époux et que nous sommes invités à vivre cette noce. Et cette dilatation, nous devons vraiment y faire attention, à la fois dans notre expérience personnelle, mais aussi dans la pastorale que nous développons.
Ce n'est pas un hasard, justement, que toute la vie publique de Jésus commence par une noce. Il a parlé, dans ce texte, nous avons lu cette parabole des noces pour le royaume. Et Jésus a inauguré l'annonce du royaume sur la terre par les noces de Cana. Parce que, justement, il voulait signifier qu'il était l'époux et que c'était lui qui allait donner le bon vin de l'amour jusqu'à la fin de nos vies. Et pour le célibat consacré comme pour le mariage, le bon vin est pour la fin. C'est-à-dire que plus nous rentrons dans la profondeur de ces vocations, dans l'appel, dans la joie, dans le fait de découvrir tout ce que recouvre chacune de ces vocations, et plus nous rentrons dans le vin délicieux, affiné, plus nous savourons ce nectar, plus nous rentrons dans l'ivresse de l'Esprit-Saint, puisque c'est à ça que nous sommes appelés, en continuant à cheminer avec l'Esprit-Saint dans chacune des vocations.
Et le fait que, effectivement, le ministère de Jésus a commencé par une noce, montre bien que Jésus est l'époux, l'époux avec un grand E, parmi l'ensemble des époux. C'est le premier des époux, et que c'est à sa suite que nous allons pouvoir redécouvrir les vraies épousailles. Et Jean-Paul II insiste et médite sur le sens de Cana dans le ministère de Jésus, en soulignant que la vérité sur le couple et la famille est inscrite au cœur de la révélation de l'histoire du salut. Et que le Christ vient réveiller vraiment cette vocation pleine et entière qu'est le mariage et lui redonner tout son sens au travers du ministère de la rédemption. On se retrouve dans un instant. Voilà, ensemble pour méditer sur cette vocation nuptiale qui est la vocation chrétienne. Avec Maud, on va passer un peu de temps sur la spécificité, un peu, si on peut dire, de chacune des deux vocations nuptiales, qui est, on pourrait dire, le célibat des consacrés, et le mariage en Christ des époux. Alors, commençons peut-être par le célibat nuptial des consacrés.
Voilà, alors en Matthieu 19, ce texte que nous avons pris le temps de relire, Jésus insiste bien sur le fait que le célibataire se consacre pour le royaume des cieux, c'est-à-dire que ce n'est pas ni par fuite des exigences ou de la réalité terrestre, ni par mépris du mariage, mais parce qu'il est comme un signe de ces temps qui sont les derniers, c'est-à-dire que ce qui prime avant tout, c'est de manifester que nous allons vers une autre vie, qui est celle de l'éternité, et qu'il est déjà signe de cette éternité où le Christ sera tout pour tous.
Voilà, et comme il est dit en Matthieu 22, il anticipe cet état du célibat, il anticipe déjà la préexistence du royaume où Jésus dit qu'après la résurrection, on ne prendra ni femme ni mari, mais tous seront comme des anges de Dieu dans les ciels. Et donc il y a chez le célibataire qui veut consacrer sa vie dans le célibat, qui veut épouser le Christ, il y a vraiment cette aspiration du cœur, du corps, de l'âme, en disant mais je veux épouser le Christ, Dieu seul suffit. Ils sont un signe pour dire mais son amour peut combler complètement ma vie. Ils sont là pour louer et bénir le Seigneur, mais ton amour, Seigneur, remplit complètement ma vie et je suis prêt à t'épouser. C'est vraiment, ils sont un peu comme les saintes, comme le décrit l'Apocalypse, déjà dans cette louange.
Voilà, dans cette louange et puis dans cette existence qui est le signe que finalement ce monde, lui, passera, mais que l'éternité, elle, ne passera pas. Donc, ils sont là, signe pour nous, rappel, toujours, je veux dire, dans ce monde, au cœur même de notre réalité, rappel du royaume à venir vers lequel nous allons, et que finalement, c'est seule l'existence de Dieu et la vie, l'amour avec Dieu, qui est l'objectif de nos vies, à tous, et qu'ils ont choisi, dans leur vie d'homme ou dans leur vie de femme, de manifester que seul l'amour du Christ comble complètement la soif d'amour de tout être et toutes ses aspirations.
Et combien nous sommes témoins depuis des années et des années de voir combien le témoignage des consacrés en célibat, religieux, moines, prêtres, quand ils sont complètement dilatés par leur zèle, la joie d'appartenir au Christ, mais interpellent croyants et non-croyants. Mais qu'est-ce qui habite leur cœur? Ils sont un aiguillon permanent pour montrer que nous ne sommes pas faits simplement pour cette vie terrestre, mais que nous allons vers le royaume, et que cette vie n'est qu'un passage, et que nous allons vers la vraie vie. Et c'est un... Alors, souvent à un moment, sans doute, croyants aussi, ou non-croyants, disent, bah, de toute façon, telle ou telle personne, de toute façon, elle était tellement pénible, etc., qu'elle a trouvé personne pour se marier, et etc. Et donc, au contraire, le célibat est un contre-témoignage de la foi, pour certains. Et il s'appuie sur l'état peut-être triste de ces personnes consacrées. Mais au contraire, quand on voit les personnes consacrées qui sont complètement dilatées par le bonheur d'appartenir au Christ, mais c'est une interpellation permanente, c'est un aiguillon pour dire « Mais d'où je viens? Où je vais? Quel est le sens de ma vie ?»
Ce qui est certain, c'est que le célibataire consacré est une interrogation pour notre monde et qu'il est en permanence en contradiction. C'est comme un signe prophétique qu'il y a autre chose dans le monde que ce que ce qui nous est présenté comme la consommation, comme toutes les activités, suractivités. Il choisit délibérément de sortir de cette logique-là et de rentrer dans le monde de la gratuité, dans le monde de l'amour, dans le service, dans le don de sa vie, sans aucun retour, si je puis dire, humainement. Et ça, c'est quand même un signe extraordinaire qu'il a trouvé son bonheur ailleurs que dans toutes les bonheurs de pacotille qu'on nous présente et qui, même s'ils sont agréables un instant, n'ont rien à voir avec le Christ.
Et Jean-Paul II insiste sur le fait que choisir le célibat, ce n'est pas renoncer à la nuptialité, mais au contraire, c'est choisir le Christ comme époux. Voilà ce que Jean-Paul II leur disait. Votre profession religieuse est marquée par la ressemblance avec l'amour qui, dans le cœur du Christ, est rédempteur et à la fois nuptial. La virginité consacrée est l'expression de l'amour nuptial pour le rédempteur lui-même. Voilà, c'est, vous voyez comme quoi toute vocation est marquée par cette nuptialité.
Oui, on retrouve aussi cette insistance chez saint Paul qui redit tout le temps l'importance et la beauté d'une vie complètement donnée au Christ et qui peut permettre le service de tous.
Voilà, alors entrons peut-être maintenant dans cette contemplation, si on peut dire, de cette deuxième vocation qui est le mariage en Christ. Et voilà, ce mariage qui est une vocation à part entière, comme le soulignait avec autant de force Jean-Paul II. Et pour reprendre justement l'évangile des noces de Cana, Jean-Paul II soulignait combien Jésus manifeste la vérité divine sur le mariage, vérité sur laquelle peuvent s'appuyer l'homme et la femme pour puiser la force nécessaire face à toutes les épreuves de la vie, qu'elles soient conjugales, familiales ou autres.
Voilà, on avait déjà insisté sur le fait que le mariage était vraiment un appel à vivre cette union des contraires, à révéler l'amour de Dieu. Et nous savons que, parce qu'on a amplement développé ce thème-là, à quel point le Christ rend possible ce qui est humainement impossible, et notamment que la joie des noces se poursuive de plus en plus, et que le vin soit de mieux en mieux, de meilleur, je ne sais plus comment formuler, mais que tout s'améliore au fur et à mesure des années.
Voilà, et que la loi du monde qui conduit l'amour conjugal à devenir peu ou prou de la piquette, ou même à ce moment-là vient à tarir, comme dit la parole, au contraire, avec le Christ, le vin des noces, au fil des années, est de plus en plus bon, meilleur, voilà, et comble nos cœurs. Et donc, c'est tout le sens du mariage en Christ. Et effectivement, avec Jean-Paul II, avec toute la dynamique de Vatican II qui remet au centre tout le sens du baptême, le mariage comme une véritable consécration de sa vie à Dieu revient de loin, dévalorisé comme il le fut par rapport à la virginité consacrée ou ordonnée. Et même, voilà, certains disaient que ce n'était un simple remède à la concupiscence, ou alors ce n'était que le moyen de fournir en recrue séminaires, couvents et monastères.
Nous avons amplement développé tout ça dans les précédentes émissions, mais je pense que c'est important de redire qu'effectivement, sur ce plan-là, l'Église a trimballé un certain nombre de fausses idées sur le mariage, et Jean-Paul II a tenu à remettre justement les choses un peu à plat, en reprenant aussi, pour ce faire, quelques citations de Saint Jean Chrysostome, qui était le chantre du mariage chrétien, et qui disait « Ce don de Dieu a été couvert d'opprobre jusqu'à la racine, purifions-le donc, je veux purifier le mariage et le ramener à sa noblesse pour fermer la bouche aux hérétiques. »
Voilà, c'est un Saint Jean Chrysostome qui a vraiment développé, qui est un grand père de l'Église, qui a développé toute une méditation sur le mariage et le sens du mariage. On pourrait dire aussi aujourd'hui qu'effectivement, pendant un certain temps, peut-être que le mariage a été couvert d'opprobre, alors qu'il est béni, il est désiré et voulu par Dieu. Et on peut reprendre également les paroles de Paul, à qui on a fait supporter toute cette vision négative du mariage, alors qu'il le dit lui-même dans sa lettre à Timothée. Dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines diaboliques. Ces gens-là interdisent le mariage que Dieu a créé pour être pris avec action de grâce par les croyants. Et cette action de grâce que la parole de Dieu et la prière sanctifient. Voilà, donc c'est vraiment ce mariage qui doit être sanctifié et béni et qui doit être pris avec action de grâce par les époux et aussi par l'Église, et qui doit être reconnu comme tel par l'Église.
Donc nous avons bien là une grande nouveauté par rapport à tant de textes, et déjà nous l'avions vu dans les textes Vatican II, que le mariage et le célibat sont remis à leur dignité de sanctification du baptême, et qui nous permettent l'un et l'autre d'avancer vers la joie des noces et vers le plus grand bonheur qui nous est offert.
Voilà, et donc c'est pour cela que Saint Jean Chrysostome, que nous avons déjà cité à l'instant, pour taire la parole des hérétiques qui voulaient supprimer le mariage comme vocation, et à un moment il s'écrit en disant « Mais Jésus-Christ est uni à l'Église, il n'en est pas moins uni avec son Père, il en est de même pour les époux. L'homme et la femme peuvent être unis et s'aimer l'un à l'autre, sans pour cela ne pas être unis avec le Christ et avec Dieu le Père. Et donc il n'y a pas opposition entre un amour incarné, un amour humain et un amour avec le Christ. Au contraire, ils se nourrissent et s'enrichissent l'un l'autre. Et c'est bien le sens de la parole de Paul quand il dit que le mystère du mariage éclaire le mystère d'amour du Christ et de l'Église, de même que le mystère d'amour du Christ et de l'Église éclaire le mystère du mariage. L'un et l'autre se nourrissent et s'éclairent l'un l'autre.
Voilà, et de la même façon que le Concile a rappelé que le Christ était et vrai Dieu et vrai homme, de la même façon, on peut être marié, tout donné à son conjoint, tout en étant uni avec Dieu. Et on peut aussi choisir d'être tout donné dans le célibat et à ses frères, tout en étant uni avec Dieu. Ce sont deux façons de réaliser cet appel à la sainteté que le Christ nous propose et qui est surtout l'appel au bonheur, ne l'oublions pas.
Voilà, c'est dans cette action de grâce pour ces deux grandes voies royales, comme disent les pères de l'Église, concernant la vocation humaine pour les hommes et pour les femmes, soit le célibat, soit le mariage, de magnifiques vocations complémentaires pour que le royaume advienne sur terre et surtout se prépare dans le ciel. C'est à cette bénédiction que nous vous convions. Nous prions le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu vienne sur chacun d'entre nous et nous conduise. À bientôt.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.